BW. Vue d'Allemagne.
L'immigration a été au cœur des débats ces dernières semaines en Allemagne, dans le sillage des élections régionales qui se tenaient dans l'est du pays. Le succès de l'extrême droite à ces élections a de quoi décourager les travailleurs étrangers qualifiés, dont l'Allemagne a pourtant besoin. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Si vous avez suivi ce magazine la semaine dernière, vous l'attendez avec impatience. La deuxième partie du reportage à New York auprès de jeunes migrants africains arrivés illégalement aux États-Unis. Le rêve américain à l'épreuve de la réalité. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Letouzé au micro. Willkommen et bienvenue. La catastrophe a été évitée lors des élections de dimanche dernier dans le Brandebourg, l'État régional qui entoure Berlin. Le Parti social-démocrate a remporté le scrutin avec 31% des suffrages, mais il est talonné par le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, AfD, qui a obtenu un peu plus de 29% des voix. Alors, c'est 5 points de moins qu'en Saxe et en Thuringe, où les électeurs étaient appelés aux urnes le 1er septembre. Nous avions analysé le résultat de ces deux scrutins dans Vue d'Allemagne, mais il n'y a pas de quoi fanfaronner. Environ un électeur sur trois a donc voté pour l'AfD dans ces trois régions. Et l'AfD, c'est un parti anti-immigration. L'étude annuelle Thüringen Monitor, qui analyse depuis plus de 20 ans la culture politique du Land, révèle par ailleurs qu'un tiers des personnes interrogées sont contre l'immigration de travailleurs qualifiés venant de l'étranger. Une personne sur cinq aurait aussi des opinions d'extrême droite. Des opinions qui se manifestent aussi de plus en plus dans la rue, se désole Bulgan Chimeg Nyama. Elle est chargée de mission pour des projets de démocratie au sein de l'organisation Migranet Thuringe.
Depuis le 1er septembre, les personnes qui s'inspirent de l'extrême droite ou du populisme affirment plus ouvertement leur haine. Dès le lendemain, on a dit aux gens « l'AfD arrive, bientôt vous serez tous partis ». Ce matin même, une personne m'a dit à l'arrêt du tram « bientôt tu rentreras chez toi ». Ce genre de choses arrive déjà. Les gens sont devenus plus agressifs. Et des fois, tu es juste là, debout, et les gens te regardent avec une attitude agressive.
Le réseau régional, qui regroupe plus de 60 organisations de migrants en Thuringe, plaide pour un renforcement de la formation et de l'information politique, ainsi que pour un soutien accru aux étudiants étrangers dans la jungle bureaucratique allemande. La directrice de Migranetz, Elisa Calzolari, redoute un gouvernement régional dirigé par l'AfD et même par les conservateurs de la CDU, qui signifierait des coupes massives dans les subventions.
Il est dangereux de voir comment les partis démocratiques suivent ce récit xénophobe de l'AfD et participent à sa normalisation en le répétant et en le reproduisant. En réalité, ils devraient s'associer à des groupes, des initiatives et des associations marginalisées dans la société civile et créer un nouveau narratif positif de dignité humaine, de respect et de participation. Mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement.
Les dirigeants d'entreprises implantées en Thuringe s'inquiètent eux aussi de la tournure des événements. Dans la petite ville d'Arnstadt, l'entreprise N3 Engine Overhaul Services résume à elle seule le paradoxe de la Thuringe. La filiale de Lufthansa et Rolls-Royce, qui répare les moteurs d'avions pour plus de 50 compagnies aériennes, emploie 1100 personnes de 25 nationalités différentes. Elle veut investir 150 millions d'euros pour s'agrandir et s'occuper de la maintenance de 250 moteurs par an. D'un côté, on a donc une entreprise en plein essor, ouverte sur le monde et sur l'avenir, et de l'autre, un parti dont le chef de file Björn Höcke veut revenir au passé, qui s'imagine une Allemagne sans immigrés et qui promet de graves turbulences économiques aux entreprises qui ont participé à la campagne Made in Germany, Made by Vielfalt, ce qui veut dire fabriqué en Allemagne, fabriqué avec la diversité. Stefan Landes est directeur commercial de N3.
Nous sommes tributaires de la main-d'œuvre qualifiée que nous faisons venir de l'extérieur de l'Europe, par exemple d'Asie, avec une politique qui dresse des murs ici et qui mise sur l'isolement. Nous n'aurions pas ce succès. Quelqu'un comme Björn Höcke, qui souhaite que les entreprises ouvertes sur le monde subissent de graves turbulences, montre que son parti a relativement peu d'idées sur la politique économique.
Une partie, je crois, a de la politique relativement peu. Yut est thaïlandais, il travaille au service clientèle. Quand on lui demande s'il est inquiet de la victoire de l'AFD aux élections régionales, un parti classé par l'Office de protection de la Constitution comme étant avéré d'extrême droite, il répond
« I feel a little bit worried, but I don't, I'm not afraid. »
Je suis déjà un peu inquiet, mais je n'ai pas peur. Les partis ne devraient pas utiliser de stéréotypes et mettre tous les immigrés dans le même sac. Nous venons ici dans une entreprise en plein essor. Nous apportons notre contribution et faisons ainsi quelque chose de bien, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour toute l'Allemagne.
Selon un sondage de l'Institut économique IFO, 42% des petites et moyennes entreprises est-allemandes estiment que leurs affaires sont déjà affectées par le manque de personnel qualifié. Mais cette pénurie ne touche pas que l'économie. Le secteur de la santé est également concerné. En Thuringe, qui compte le moins de médecins par habitant pour l'Allemagne, un médecin hospitalier sur 4 vient désormais de l'étranger. La plupart des 1700 praticiens étrangers sont originaires de Syrie, de Roumanie ou d'Ukraine. Anas Janot, cardiologue syrien, travaille depuis 2023 comme chef de clinique à l'hôpital universitaire d'Iéna. Selon lui, beaucoup de ses collègues étrangers s'inquiètent de l'évolution de la situation depuis la victoire de l'AFD aux élections.
Les médecins s'efforcent la plupart du temps de s'intégrer ici dans le système de santé. Mais on a parfois le sentiment que cela ne suffit pas pour être traité de la même manière, que l'origine et la couleur de peau jouent toujours un rôle. Et quand on échange avec d'autres collègues et qu'on entend ces histoires, on réfléchit bien sûr à deux fois avant de venir en Thuringe, par exemple.
Plus de la moitié des médecins étrangers sont restés moins de 2 ans en Thuringe. Partir ou rester, une question qui devient de plus en plus présente chez les étrangers et pas seulement dans l'Est de l'Allemagne. Une enquête récente du Centre allemand de recherche sur l'intégration et la migration révèle qu'une personne issue de l'immigration sur 4 a déjà pensé à quitter le pays. Le cardiologue Samer Matar, membre fondateur de la Société syrienne des médecins et des pharmaciens en Allemagne.
Les collègues regardent les résultats avec inquiétude. Ils regardent tous les jours les informations et veulent savoir dans quelle direction cela va évoluer. Beaucoup disent que si un monsieur Hoek arrive au pouvoir, ils ne laisseront pas leurs enfants être éduqués ici. Un collègue cadre et chef des cliniques a aussi déménagé cette année précisément pour cette raison. De nombreux collègues se demandent s'ils vont rester.
Et on continue sur le thème de la migration dans le grand reportage de Vue d'Allemagne. La semaine dernière, vous avez pu entendre le récit de voyage de jeunes originaires d'Afrique subsaharienne arrivés aux États-Unis par la dangereuse route d'Amérique centrale. Voici maintenant la deuxième partie du reportage de notre correspondant à New York, Jean-Claude Abalo. Car une fois débarqués dans la métropole américaine, beaucoup des jeunes migrants se retrouvent dans une grande précarité à affronter de multiples défis. Trouver un logement, un emploi, éviter l'expulsion et s'intégrer dans un pays qu'ils ne connaissent que par les films. Dans ce quotidien difficile, les réseaux communautaires sont précieux, comme vous allez l'entendre dans ce reportage qui démarre chez l'imam sénégalais Omar Nias.
Depuis que j'ai acheté cette maison, je l'ai convertie en mosquée. Après la pandémie de la COVID-19, beaucoup de personnes ont afflué à la frontière, notamment en provenance du Brésil. Dès qu'ils ont entendu que la frontière était ouverte, ils ont pris la route pour venir ici.
L'imam Omar Nias en a vu passer des jeunes en quête d'un avenir meilleur qui se retrouvent perdus à New York. Parmi les quelques 80 000 migrants en situation irrégulière qui vivent dans cette mégalopole, le sexagénaire, une figure centrale de la communauté sénégalaise de New York, a aidé à l'intégration d'une centaine de jeunes migrants subsahariens ces 2 dernières années.
Ils arrivent souvent en petits groupes de 3 ou 5, cherchant mon adresse en prenant ma carte de visite pour la partager avec d'autres. Ils disent « Je suis arrivé aux États-Unis. Comment tu as fait ? Je suis passé par le Guatemala, le Nicaragua, puis Mexico. Maintenant, je suis à New York City. Où loges-tu ? Chez l'imam Omar Nias. Donne-moi son adresse. » Et c'est ainsi qu'ils arrivent.
Give me the address. They give it to them. They come.
Yacoub, 31 ans, fait partie de ces jeunes. Il a pu bénéficier d'un toit et de quoi se nourrir grâce à l'imam Nias. Malgré cette aide précieuse, il reste plongé dans la précarité.
C'est dur hein, parce que depuis 6 mois, on n'a pas de travail. Il y avait des gens qui ont fait aussi, même 1 an. Parfois, tu dors dans les mosquées, c'est dur. Hein. Beaucoup de gens ont regretté de venir ici, beaucoup de gens. Parce qu'on n'a pas d'aide, on n'a pas de travail. Parfois, les nourritures que tu manges dans les centres, tu ne l'aimes pas. Vous avez vu parfois, c'est les bons volontaires qui nous aident pour qu'on mange. Si tu n'as pas d'argent, tu seras fatigué. Parce que nous, on était là-bas en l'aise, on vivait tellement bien.
Alex, arrivé aux États-Unis dans des conditions similaires, décrit la situation comme une prison à ciel ouvert.
J'ai parlé avec un ami récemment qui m'a dit qu'il a son propre petit frère qui était arrivé par le même chemin. Arrivé, il a été détenu dans un centre pendant quelques jours. Ensuite, ils lui ont placé un bracelet électronique et il a été libéré pour arriver à sa ville de destination, qui est New York, pour les 60 jours. Le bracelet ne peut être enlevé qu'au moment où il introduit son dossier. Il reçoit une confirmation de l'immigration.
Au bureau des services sociaux du Bronx, l'urgence de la situation est traitée avec le sérieux qu'elle exige. À la tête de cette administration, David Ahmed Koulibaly s'efforce de trouver des solutions à une crise qui ne cesse de croître.
Avant même que cette crise-là même ne commence, on a pratiquement 11 millions de personnes qui sont sans papier, qui sont déjà là, qui ont duré dans ce pays-là, qui n'ont même pas papier. Et on vient ajouter encore d'autres personnes. Spécialement pour ces immigrés-là, ça va être difficile pour eux pour avoir des papiers parce qu'il faut que le Congrès soit activement impliqué pour donner le papier à ces personnes-là. C'est ça le plus grand défi, comment aller trouver les papiers pour qu'ils puissent travailler, soutenir les parents.
L'espoir des migrants se transforme rapidement en désillusion. David Ahmed Koulibaly.
La plupart d'entre eux, pour venir ici, là, ils travaillent sur Nicaragua et beaucoup d'endroits. Ils paient beaucoup d'argent. Ils paient vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et là, c'est vraiment difficile pour ces personnes-là qui ont minimum dépensé au moins 4 à 5 millions pour venir ici aux États-Unis pensant que tout est rose, ils vont ramasser de l'argent. Et puis ils sont confrontés à la réalité.
Yacoub, avec sa casquette bien enfoncée sur la tête, paraît souvent absorbé dans ses pensées, comme s'il regrettait son choix.
Si quelqu'un a beaucoup d'argent, il faut investir là-bas, quoi. Parce que nous, on a financé tout notre argent pour venir ici, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien. Et même si tu voyages, il faut voyager dans les bonnes conditions. Si tu peux avoir visa et avoir hébergement aussi, quelqu'un qui t'héberge, tu peux voyager. Mais si tu ne peux pas avoir quelqu'un qui t'héberge ou bien un visa, non, ne prends pas ce risque-là pour venir ici. Parce que c'est dur. Aussi, la route aussi, c'est très dangereux parfois. Parce qu'il y avait des gens qui ont perdu leur vie sur le chemin. Donc, c'est pas du tout facile.
À l'approche de l'élection présidentielle du 5 novembre, l'immigration est devenue un sujet brûlant, suscitant de vifs débats dans tout le pays. Fraîchement arrivés à New York, ces migrants africains se retrouvent bien malgré eux au cœur de cette tempête politique. Barry Mokhtar, un autre rescapé des dangereuses routes de l'Amérique latine, garde néanmoins espoir en un avenir meilleur malgré les défis.
Trump veut fermer les frontières, oui, mais mon souhait est qu'il ne rapporte pas les élections.
Le parcours de ces nouveaux arrivants met en lumière les contradictions d'un système migratoire à bout de souffle où le rêve américain semble à la fois accessible et inatteignable. Désormais, le véritable défi commence. Transformer ce rêve en réalité dans un pays où l'avenir reste incertain pour ceux qui ont tout sacrifié. Jean-Claude Abalo à New York pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Jean-Claude Abalo et à Oliver Pieper pour leur contribution. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce magazine. Si vous voulez écouter la première partie du reportage aux États-Unis, rendez-vous sur notre site dw.com/français ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne semaine à toutes et à tous. Tchuss !